Avec moi dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 au verset 3. Hébreux, chapitre 12, verset 1 au verset 3, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Excusez-moi mon français, de temps en temps, je le bafouille. Merci de corriger. En lisant ce texte, je réfléchissais en effet à cette pensée, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En réalité, tout nous indique derrière tout ce que nous pouvons voir dans le ciel, sur la terre, à part la méchanceté des hommes, qui est vraiment l'invention et je dirais le fruit de la méchanceté des hommes, tout nous montre que Dieu existe. L'autre matin, j'admirais le lever de soleil. Vous allez vous entendre ça pendant des moments, hein, on ne va pas se lasser. Et quelque chose qui m'a paru particulier, c'est que la manière où le ciel était touché par les nuages et tout le reste, à un moment, la lumière apparaît comme une croix. Combien d'entre vous ont déjà vu un soleil un peu particulier? Ça peut être. Et je me disais, Seigneur, tout pour moi m'annonce quelque chose qui est attaché à ton amour, à ta bonté pour moi. Quelqu'un disait, s'il y a bien un horloge, c'est que derrière il y a un horloger. Un jour, un prof me disait, il me parlait de la théorie du Big Bang. Il dit, tout s'est créé par la confusion. Je lui dis, écoutez, vous devriez appeler ma mère. Il me dit, pourquoi? Parce que quand elle regarde mon bureau, elle dit que c'est un désastre. Et moi, je lui dis que c'est un être créateur. Elle ne me croit pas. Elle dit, mais il faudrait mettre de l'ordre. Je lui dis, alors mettez de l'ordre aussi dans vos idées, parce qu'il n'y a rien qui va ressortir. Désordre, c'est désordre. L'ordre, c'est l'ordre. On est d'accord. Et tout, il y a un tel ordre dans la manière où le ciel et la terre fonctionnent. Quand on regarde la manière où les planètes tournent, tout nous montre qu'il y a une précision incroyable, incroyable. Et tout ça ne peut pas s'inventer du rien, forcément. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est derrière tout ça et qui a le contrôle sur toute chose et qui sait, parce qu'il fait les choses avec un soin incroyable. J'aime observer, et quand je vois un papillon, je me dis, Seigneur, quel soin. Vous n'avez pas deux papillons qui sont les mêmes, non? Pourtant, nous, on fait un standard. Si on devait faire un travail, allez, vous devez produire 1000 pièces. Vous vous faites un patron et vous y allez. Qui prendrait le soin de faire pièce par pièce? Trop de boulot, laisse tomber. Mais Dieu prend le soin de faire chaque papillon différent. Sans aller chercher des papillons, quand on regarde les empreintes de nos mains, n'est-ce pas? Dieu a le soin des choses très petites. Et le texte nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés. Il nous rappelle notre responsabilité face à tout ce qu'il nous annonce de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, du projet de Dieu. Et après, il continue en disant, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors, je me suis posé la question, comment imager ce verset? Et la pensée qui m'est venue, alors, elle est ce qu'elle est. Hein. Vous avez déjà vu, quand on accroche au plafond, ces petits rouleaux à mouches. C'est magnifique, c'est une décoration qui donne envie, non? Combien d'entre vous ont déjà vu ça? Combien apprécient? La décoration, elle est belle, hein? Ça donne envie, ça c'est, voilà, on se dit, tiens, quand ça sera plein, on pourra faire une petite soupe. Mais, Mais quand je regarde ça, qu'est-ce qui fait, excusez-moi, qu'est-ce qui fait que la mouche elle ait envie d'aller sur ce bout de papier avec toute la place qu'il y a? Je vous écoute. Alors quelqu'un dit, il y a quelque chose qui les attire, attiré par l'odeur. Pourtant, il y a tellement de place où elle risque rien, mais c'est là-dessus qu'elle va s'appuyer. Et qu'est-ce qui se passe quand la mouche se pose? Alors, quand vous regardez un peu ce texte, il est question d'être enveloppé si facilement. D'ailleurs, le péché, c'est quelque chose qui nous attire par quelque chose qui nous repousse. Souvent, c'est quelque chose qui nous tente, qui nous donne envie, que ce soit par l'odeur, que ce soit par ce qu'on voit, par l'idée d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant. Mais le jour où je l'aurai, je serai heureux comme tout le monde. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on touche à ça, en réalité, on est piégé dans quelque chose dont on a du mal à se décrocher. Et qu'on le veuille ou pas, alors que peut-être on l'a fait en se disant « personne ne me verra », là, on est à la vie de tout le monde. Et de la même manière que ce papier nous rappelle un peu le piège que Satan nous tend, elle doit nous faire réfléchir sur la nécessité pour nous de rejeter, de renoncer à tout ça, parce qu'en réalité, il essaye de tendre une embûche, de nous encercler pour nous conduire à quelque chose comme un entonnoir dans lequel après on ne peut pas se sortir. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà admiré des plantes carnivores. Ah, j'ai drôle de... Mais pour moi, tout est intéressant. Tout est intéressant, tout peut instruire, tout peut nous montrer. La manière où la nature, elle agit, c'est que il y a derrière quelque chose. Alors, vous avez des plantes, elles ne bougent pas, mais elles ont des couleurs qui attirent. Et une fois que l'insecte est tombé dedans, mais il glisse, c'est terminé. Il a le repas du soir. Satan met devant nous comme une peau de banane. En attendant que nous plaçons le pied dessus et qu'on glisse, et généralement, il nous propose ce qui attire notre regard, notre pensée, ce qui attire notre cœur. Il ne nous proposera pas quelque chose qui ne nous plaît pas. D'ailleurs, dans le livre de Jacques, si vous regardez bien, quand il parle du péché, il dit que, premièrement, Dieu ne tente personne. Mais le péché, qui en réalité, et il y a quelque chose au fond de nous, amorce nos propres sentiments. Et une fois que ce péché consommé produit la mort, c'est un peu le même processus. Mais à la base, il y a quelque chose au fond de nous-mêmes qui nous attire vers quelque chose pour lequel on ne devrait pas avoir d'intérêt. Ça remonte à très loin. On était à peine fiancés avec Elisabeth et son neveu était à la maison, un petit bébé magnifique, super, Kevin. Michael, pardon, pourquoi Kevin? Kevin, ah, j'ai raison. Je répète, j'ai raison. Kevin. Et le petit Kevin, c'était, moi je l'appelais Etty. Il était toujours avec son petit doigt comme ça, il partait. Quand il partait avec son doigt, on savait qu'il allait mettre le doigt quelque part. Alors, toutes les prises avaient été protégées, tout ce qu'il fallait protéger, on protégeait. Mais il y avait une armoire, un placard, où on lui disait « Non, Kevin !» Et il repartait avec son petit doigt dans l'autre sens. Mais il revenait jusqu'au moment où on entend Kevin crier, parce qu'avec une main, il avait ouvert la porte, il avait enfilé son fameux doigt. Et après, la porte était trop dure pour lui parce qu'il était tout petit. Il avait quoi, 2 ans, 3 ans à ce moment-là? Et donc, au lieu de retirer la porte, il l'a pressée et son doigt était coincé dedans. Et là, Kevin était pris au piège. Et Kevin il s'est fait gronder. Vous imaginez bien. Et nous, on est un peu comme ça. On essaie toujours de mettre les doigts là où il ne faut pas. On a un talent particulier. Même si on sait, il y a écrit « ne pas toucher ». Ne pas, on n'aime pas cette impossibilité pour nous, cette interdiction. Elle nous attire plus qu'autre chose. Dis ton enfant, tu ne le fais pas, vous allez voir. Tournez le dos, vous allez voir. Ne fais pas ça. Moi, je compte plus les fois où j'ai dit à mes enfants, ne faites pas ça. Avec ma femme, on se regardait, on était sûrs. Et en général, quand on n'entendait plus de bruit dans la maison, on se disait, ils sont en train de le faire. C'est sûr. C'est certain, vous avez fait l'expérience en première personne, parce que certainement vous avez essayé vous-même, mais vous avez vu aussi les enfants. Donc c'est dans la nature humaine quand même, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous invite plutôt à fuir la tentation, à fuir le péché, à fuir ce qui pourrait en réalité nous faire rester collés à quelque chose dont on a du mal à se sortir. Et le texte dit en réalité de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Que veut-il dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire par cela? En effet, Jésus est venu nous ouvrir une porte, un couloir de sauvetage, là où en réalité il n'y avait rien. Quand il y a un incendie, quand il y a une urgence, en général, on met en place un système de sécurité pour que quelqu'un indique le chemin de sortie. Dans les entreprises, on appelle ça un serre-fil, c'est ça? C'est la norme, c'est la loi. Et cette personne doit en réalité faire de guide pour amener tout le monde vers la sortie. Et comme on est pris dans cette situation, on essaye de regarder qui peut nous sortir de notre problème, de notre difficulté, n'est-ce pas? Et Jésus, en effet, il a vu la difficulté de l'être humain de pouvoir sortir de sa situation et il a accepté de venir être cet indicateur de la voie de sortie. Et le texte dit qu'il a ouvert pour nous une carrière, il a ouvert pour nous un chemin, il a tracé un chemin où il est question pour nous de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Alors on a dit tout à l'heure, c'est la confiance. Mardi soir, je vous donne le titre du message, une forêt dans la bouteille. D'accord? Si ça vous intéresse, mardi soir. Une forêt dans la bouteille. Vous allez dormir cette nuit? Moi, oui. En effet, pas seulement Jésus nous a ouvert le chemin de la foi, mais il nous conduit pas après pas pour nous ramener à la perfectionnement de la foi. En réalité, la parole de Dieu dit que Dieu a déposé en chaque être humain une portion de foi. Et Jésus dira encore plus, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, c'est pas gros, hein? Non? Ça veut dire que pour petite qui peut être notre foi, si on ose, parce que la question c'est de oser. Ah, est-ce qu'on a le courage de oser, de mettre en action notre foi? Est-ce qu'on ose? On ose bien des choses, mais la foi, on se pose la question, est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire? Alors le texte, il dit, voilà, Jésus a préparé, il est le consommateur de la foi, mais la question c'est, ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple, dans le cas où il y a un problème, où il y a un incendie, où il y a un désastre, on a besoin que quelqu'un qui nous conduise et qui nous dise où sortir, parce que quand il y a la confusion, quand il y a le manque de lumière, on est un peu désorienté, non? Et vous savez, si on éteignait les lumières, ce qui resterait allumé dans les locaux, c'est les petites lumières avec l'indication de sortie. Question pour nous, s'il y avait vraiment un problème, il faut qu'au moins qu'on puisse voir de quel côté sortir. Eh bien, Jésus, il a souhaité nous préparer un chemin en nous donnant une indication claire. Mais maintenant, la question, est-ce que nous sommes en train de se dire, Seigneur, c'est ça la direction, je la prends par la foi. Je ne sais pas où ça va me conduire, jusqu'à où ça va me conduire. Mais Seigneur, c'est le seul moyen de m'en sortir. Et parfois, on en arrive au point où il n'y a pas d'autre moyen parce que Dieu a tout tenté pour nous éviter d'en arriver là, mais on n'a pas voulu écouter. Il y a un couloir, il y a une voie à emprunter et on a un temps déterminé. Je me rappelle d'une expérience que j'ai faite il y a quelques années à l'aéroport. Je partais de Bordeaux et je devais me rendre en Alsace. Et j'avais un vol, je devais changer de vol à Paris. Et j'arrive sur le premier avion qui est parti en retard. Et je me dis déjà là c'est bon, c'est toujours pour moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai le chic pour trouver les avions super moi. Et j'arrive, et sur l'avion, je me dis, Seigneur, il faut faire un change. Le temps était déjà limité, mais là, il était ultra limité. Et je dis dans mon cœur, je dis, Seigneur, comment je peux faire aller rattraper l'autre avion qui était sur un autre côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et ce n'est pas un petit truc, c'est une ville, c'est une ville. Et je me dis, Seigneur, si tu pouvais mettre un ange à côté de moi pour m'y conduire, ça serait super. Et là, je vois le steward qui vient et je lui dis, écoutez, je dois me rendre à cette porte d'embarquement. On lui dit, mais vous devez sortir, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Et une personne à côté de moi, il me dit, ne faites pas ceci. Je lui dis, pardon ? Il dit, ouais, ne faites pas ceci, vous ratez votre avion. Il dit, je suis pilote, je connais tous les chemins, vous inquiétez pas, je vous emmène, vous n'allez pas louper votre avion. J'avais dit dans mon cœur au Seigneur, Seigneur, si tu pouvais mettre un ange à côté de moi, c'est un peu un pilote, non ? Eh bien, j'ai eu mon pilote. Et je suis arrivé tout juste, et en effet, la porte du deuxième avion, elle s'est fermée juste derrière moi. Et on m'a dit, monsieur, vous êtes arrivé juste à l'heure, c'était la limite. Et là, je peux vous dire que vous priez, vous dites, Seigneur, merci. Mais ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, ce genre de choses. Ce n'est pas la seule fois. Il y a un moment où on doit prendre le courage de dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je ne sais pas comment me sortir. Je rentrais d'un voyage, j'étais fatigué. Il y avait eu, je crois que c'était 7 heures de vol, un truc comme ça. J'arrivais, j'étais fatigué. Et j'arrive à l'aéroport et je devais prendre le bus pour rentrer. Et il y avait du retard pour récupérer ma valise. C'était encore une fois le chemin de quelques kilomètres. Et je pars avec mes valises qui pesaient une tonne parce qu'avant de partir, des frères et sœurs bienveillants, « Mais prends ceci, prends cela, prends cela. » La valise, elle explosait de tous les côtés. Et du coup, je vois mon bus partir. Et moi, je crie, « Arrêtez-vous !» Mais vous parlez, il était au loin. Et je disais dans mon cœur, « Seigneur, fais que quelqu'un l'arrête !» Et d'un coup, une dame, il me voit courir avec ma valise en train de crier, « Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi !» Elle descend de sa voiture. Au rond-point, elle sort de sa voiture, elle tape sur le bus, il l'oblige à s'arrêter. Je suis arrivé sur le bus, j'étais dans tous mes états, j'ai dit, Seigneur, encore une fois, t'as mis un ange. Et j'ai dit à la dame, merci l'ange, merci. Il y a des moments dans notre vie, il faut avoir courage d'oser dire à Dieu, Seigneur, mets sur mon chemin un moyen de m'en sortir. Et on n'a même pas besoin de le dire à qui que ce soit. C'est entre nous et Dieu. Est-ce que quelqu'un oserait aujourd'hui dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi pour m'en sortir ? Mon papa, il a fait l'expérience. Il ne croyait pas en Dieu. Il se disait athée. Et un jour, ma grand-mère, elle croyait en Dieu. Et elle priait. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle priait. C'était une femme de prière. Et un jour, en priant, il y avait sa voisine qui était en fauteuil roulant, qui a été guérie complètement. S'est levé de son fauteuil roulant et mon père connaissait cette dame, cette voisine, et ma grand-mère, il lui dit, écoute, t'es rentré du travail, viens, je vais te montrer quelque chose, viens avec moi. Et toi qui te manques de moi parce que je crois en Dieu, viens voir. Et il lui montre la voisine et dit, tu vois, elle a été guérie. Et donc, suite à ça, mon père, il n'avait plus grand-chose à dire. Et il est rentré dans sa chambre et il a osé dire à Dieu, mais si tu existes, montre-toi à moi. Et à ce moment-là, il a vu une croix et il a entendu une voix lui dire « Voici le chemin, marche-y. » Première réaction, il est parti en courant de sa chambre. Et il m'a dit « Chaque fois que je rentrais dans ma chambre, je vérifiais qu'il n'y avait pas quelque chose que ma mère avait pu mettre en place, mais personne ne connaissait ma prière. » Jusqu'au moment où il a accepté, il a donné son cœur à Dieu. C'était entre lui et Dieu. Notre relation avec Dieu, elle est personnelle. Et Dieu nous invite à faire un acte personnel. Donc il est question pour nous de la foi, d'un chemin qui nous est ouvert en fixant les regards sur Christ qui est le chef, mais aussi celui qui nous amène à une foi qui se perfectionne, qui grandit, qui à quelque part se libère de ce qui n'est pas véritablement nécessaire dans la foi, mais qui nous amène à affiner notre recherche, affiner notre regard, même affiner notre oui pour entendre la voix de Dieu et nous donner une indication bien précise. Et la parole de Dieu nous parle de Jésus, non pas comme quelqu'un qui vient comme un touriste, non. En effet, lui, il est venu et il a accepté avec joie. Et en vue de la joie que ça lui aurait donné le fait que nous donnions notre vie à lui, il a souffert la croix. Quand on se pique un doigt avec un aiguille, ça fait mal. Quand on se plante un clou dans le pied, ça fait mal, je vous le dis. Gamin, j'ai testé. Ah, j'étais terrible. Imaginez donner volontairement quelque part vos mains, vos pieds pour être percés avec des clous. Restez suspendu. Parce qu'il y a un but. En effet, vous donnez votre vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Qui, à la base, excusez-moi, ne vous aime pas, ne vous cherche pas. Peut-être veut même pas de vous dans sa vie. Vous, vous le faites, mais lui, il ne s'intéresse pas. C'était mon cas, moi je ne m'intéressais pas à Dieu. Et pourtant, Dieu l'a fait pour moi, dans son amour. Et le texte dit qu'aujourd'hui, après avoir accepté tout ça, il est assis à la droite du trône de Dieu. Waouh ! Il a une place qui est enviée. Même les disciples, à un moment, ils diront à Jésus, permet que... On a une question. On a un vœu, on a un désir, on a un rêve. Hein? Il dit lequel? Permet qu'on soit assis un à droite et l'autre à gauche, comme si c'était rien. Non? Et Jésus lui dira, ça ne dépend pas de moi. Mais il y a une place qui lui était réservée, à la droite de Dieu. Et cette place, c'est une place de référence, c'est une place d'autorité. C'est une place aussi qui permet en réalité à Christ de dire à Dieu le Père, j'ai payé pour lui. La facture, elle est réglée. Vous pouvez aller. Alors imaginez, vous avez un gros pépin avec la voiture. La facture, elle est... Et au moment où vous arrivez à la caisse, quelqu'un apparaît d'un coup et vous dit, ben, vous pouvez rentrer, la facture, elle est payée. Qu'est-ce que vous faites ? Mais une grosse facture. Double voie. Mais je peux vous dire que la dette qui est la nôtre à cause du péché, elle est bien trop grande pour être payée. Et le taux d'intérêt est tellement cher qu'on ne peut pas régler la facture. Parce qu'en réalité, en tombant dans le péché, on tombe dans quelque chose. C'est une spirale qui nous endette spirituellement encore plus qu'on peut l'imaginer. Et malgré tout ce qu'on peut essayer de faire, on peut se dire, mais vous savez, je suis une bonne personne, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais volé personne, j'ai jamais ceci, jamais cela. Mais la parole de Dieu nous dit que le péché, en réalité, nous, on met une échelle de valeur dans le péché. Mais aux yeux de Dieu, le péché, c'est péché. Et la parole de Dieu nous dit aussi que les menteurs ne rentreront point dans le royaume des cieux. Avons-nous déjà menti ? Non, pas ici. Jamais. Hein? T'as vu ça? Découvert. Qui d'entre vous a jamais appris un enfant à mentir? Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant commence à mentir? C'est la nature. Notre nature, elle est pécheresse. Et en réalité, on a besoin du secours de Dieu pour nous libérer de quelque chose qui est inscrit dans notre être, inscrit dans notre nature, inscrit dans notre ADN, le péché. C'est pour ça qu'il est question pour nous de garder les yeux fixés sur Christ et non pas sur nos faiblesses, non pas sur nos incapacités, parce que nos incapacités, elles auront tendance toujours à nous écraser vers le bas. Mais en réalité, quand vous regardez le troisième verset que nous avons lu, le dernier, il dit « Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Le but, c'est que nous, on reste pas bloqués sur nos incapacités, mais on puisse regarder sur Christ qui est celui qui nous donne la force de atteindre le but. Celui qui en réalité, il nous relève la tête alors que tout nous montre qu'on est... C'est pas top. C'est pas top. Dans notre vie, il y a des choses sur lesquelles on a une certaine difficulté. Je sais pas vous. Non ? Et peut-être dans nos études, il y avait des matières dans lesquelles on n'était pas forcément à l'aise. Et je ne sais pas vous, mais on avait tendance peut-être à trouver quelqu'un qui était bon dans la matière. On se mettait assis en disant à moi qu'un œil. en l'écoutant, peut-être je vais réussir à capter quelque chose. Non, c'est de l'apprentissage forcé. Mon grand-père m'a toujours dit, va avec ceux qui sont mieux que toi, tu pourras toujours apprendre quelque chose, ne fréquente pas ceux qui sont pires que toi. Il n'avait pas tort, hein? Donc, je me dis qu'à quelque part, si je regarde la personne faire, peut-être je vais comprendre pourquoi et comment il le fait. Peut-être son virus, il va me choper, ça va m'aider. Je vais être bon, je ne sais pas dans quelle matière. Il est question pour nous, en réalité, de se dire, Seigneur, moi, si je devais regarder à tous les efforts que je peux faire sur moi-même, je serais vite découragé, je pourrais me lasser et me dire à quoi ça sert-il. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Quelle est la matière préférée et quelle est votre matière que vous aimiez pas à l'école? La géographie. Vous aimez les maths? Vous êtes bon en calcul? Alors moi j'ai un cas rare à la maison. Ma femme elle est nulle en maths, mais elle est bonne en compta. Allez comprendre. Non, vous pouvez pas me dire que c'est pas pareil, je suis désolé. C'est pas la même logique, on me dit. On aimerait être bon partout, non? On aimerait être bon partout. On aimerait être capable de tout. Mais en réalité, nos incapacités nous montrent nos limites. Et la volonté de Dieu, c'est de venir nous aider dans nos limites. Venir nous les aider dans nos difficultés, dans nos incapacités, dans notre quand on touche le fond, puisque la volonté de Dieu, c'est pas de nous laisser l'âme découragée. Peut-être que dans notre vie, il y a des choses qui nous découragent. Nous sommes découragés par ce que nous voyons autour de nous. Il y a un dernier texte que j'aimerais lire avec vous, en Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Waouh! Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En réalité, c'est pas compliqué. C'est pas difficile. La foi, elle est bien placée quand elle regarde à Jésus. Cette voie de salut, cette voie de secours pour notre vie, la seule voie de secours. Vous savez, ce qu'il y a de pire quand il y a un désastre, c'est de prendre la mauvaise direction. Non? Il y a des années en arrière, il y a eu un désastre dans le tunnel, vous vous rappelez? Et il y en a qui ont pris malheureusement la mauvaise direction. Et au lieu de sortir de ce brasier, ils se sont jetés à l'intérieur. Pourtant, il y avait des indications. Pourtant, tout avait été mis en ordre pour les amener à sortir. Eh bien, vous savez, le Seigneur a fait la même chose pour notre vie. On ne pourra pas dire à Dieu, tu es responsable de mon erreur. Non, parce qu'il nous dira, ben, j'ai tout mis en œuvre pour toi. Alors, ne nous laissons pas, en réalité, alourdir par nos incapacités. Nous ne nous laissons pas arrêter, décourager par notre constat personnel. Mais plaçons nos regards sur le Seigneur. Et il y a cette promesse, cette parole, où il nous dit, croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions emprunter ce chemin de salut, qui oui, certainement, il passe par la croix, parce que c'est là qu'il a donné sa vie, c'est là qu'il a offert sa vie pour nous, pour nous donner le chemin de la vie, de la vérité, sur lequel personne ne peut arriver à Dieu le Père. Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux quelques instants. Seigneur, encore cet après-midi, alors que nous sommes, Seigneur, dans ce temps de partage de ta parole et plein d'expériences que nous pouvons peut-être citer, Seigneur, il y a une réalité personnelle de chacun de nous. Il y a une quête personnelle, il y a une volonté, un désir, Seigneur, et des attentes de chacun de nous. Seigneur, il n'y a que toi qui connais exactement où nous en sommes avec notre cœur. Seigneur, pendant ce temps de partage, tu as certainement interpellé les cœurs, même par des questions, par notre conscience, tu nous questionnes. Il y a des questions que nous-mêmes nous posons, Seigneur, à nous-mêmes, et parfois on est étonné de les réponses que nous pourrions, Seigneur, en recevoir. Seigneur, mais qui mieux que toi peut lire dans notre conscience ? Seigneur, ce que je veux te demander aujourd'hui, c'est que tous ceux et celles qui oseront, Seigneur. Seigneur, vouloir, Seigneur, avoir une action de toi dans leur vie, puisse expérimenter, Seigneur. Seigneur, ce que c'est la foi. Seigneur, je te prie que tous ceux et celles qui aujourd'hui oseront dire à Dieu, donne-moi une preuve de ton existence, Seigneur, puissent réaliser que tu as été toujours là. Seigneur, tu puisses enlever, Seigneur, peut-être ce voile que jusque-là a empêché de voir la réalité, ce voile qui peut être lié à différents facteurs, Seigneur. Seigneur, parfois c'est la souffrance qui nous empêche de voir la réalité. Parfois, Seigneur, c'est notre bagage culturel, notre éducation. Parfois, c'est, Seigneur, les coups qu'on a pu prendre dans la vie, qui nous font croire que. Seigneur, mais toi aussi t'as pris des coups. Et tu les as pris à notre place. Des coups que nous, on n'aurait pas pu supporter, qu'on n'aurait pas pu encaisser. Tu as accepté, Seigneur, d'être accusé à tort. Et ceux qui t'ont accusé n'étaient pas des personnes bien qui pouvaient se tenir droit devant toi et dire « on a raison ». Mais ta parole nous dit que c'était des pécheurs eux-mêmes. Mais Seigneur, tu l'as fait parce que tu avais préparé pour nous un chemin de salut. Et encore cet après-midi, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce chemin, il est encore ouvert pour ceux et celles qui veulent l'emprunter. Ce chemin s'appelle Jésus. Et tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors Seigneur, que Seigneur, tu puisses véritablement conduire tous ceux et celles qui voudront, Seigneur, encore expérimenter ce chemin dans leur vie. Je te le demande en Jésus-Christ. Amen.